Il est 8h en ce mardi 27 janvier, le soleil s'est levé, j'espère que toi aussi. Et si tu t'es pas levé, c'est pas grave, profite de ta grasse mat, mais enfin...
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Il est 8h, l'heure du journal, présenté par Guillaume Abbé, bonjour.
Bonjour Johan, bonjour tout le monde. Confronté le monde citadin et le monde paysan, tel est l'objectif de Colostrum, un film réalisé par une genevoise de 34 ans, Sayaka Mizuno, une docu-fiction qui raconte l'histoire de Solène, bénévole Caritas, venue en aide à Pascal, agriculteur de Valdilier en plein été. Ces deux univers vont donc se croiser et s'opposer, mais aussi se rassembler sur certains points, notamment grâce à la personnalité de Pascal Perrin, l'agriculteur, Sayaka Mizuno, réalisatrice de Colostrum.
Pascal, c'est sûr qu'il est vraiment dans un rapport très terre-à-terre, étant donné qu'il travaille tous les jours, il est dedans. Et donc, je pense que le film aussi permet de voir à quel point les jours ils se ressemblent tout en étant toujours différents. Et je voulais montrer justement comment la relation, elle... au fur et à mesure des semaines, elle peut évoluer.
Des propos recueillis par Léa Journaux, un film à découvrir ce soir à Martigny, en présence de l'agriculteur et de la réalisatrice.
Une fondation est en voie de se constituer en Valais pour venir en aide aux victimes et aux proches de l'incendie de Crans-Montana.
Avec un capital de 10 millions de francs, l'objectif est d'assurer un soutien financier, juridique et administratif immédiat et sur le long terme. Les frais funéraires et de rapatriement des personnes décédées seront également pris en charge. Par ailleurs, l'octroi rapide, coordonné et sans formalité administrative de l'aide immédiate, prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, va être appliqué, ainsi que la définition de la qualité de victime au-delà des personnes hospitalisées ou décédées. Et de leurs proches.
200 francs, c'est le montant au cœur de l'initiative SSR.
Et la somme qui inquiète aujourd'hui les gouvernements de Suisse occidentale, réunis hier à Lausanne, les cantons romands au sein de la conférence des gouvernements de Suisse occidentale se sont fermement opposés au texte. Ils estiment qu'une redevance abaissée fragiliserait le service public audiovisuel, la pluralité de l'information et le débat démocratique, un risque qui, selon eux, dépasserait largement la seule SSR, la présidente du Conseil d'État vaudois, Christelle Luizier-Brodard.
Je pense qu'un affaiblissement de la SSR, c'est un affaiblissement de l'ensemble de l'écosystème. N'oublions pas que par ailleurs, si on devait supprimer 2400 ETP, donc équivalent plein temps à la SSR, ce serait 2450 ETP supplémentaires qui seraient supprimés dans tout l'écosystème pour des boîtes de production par exemple ou d'autres sociétés privées qui travaillent avec la SSR. Donc oui, en termes de qualité de l'offre, mais par ailleurs, s'agissant des emplois, il pourrait y avoir un effet sur le privé.
Selon une étude fédérale, plus de 3000 emplois pourraient disparaître, dont une large part en Suisse romande. Les exécutifs cantonaux appellent à rejeter l'initiative le 8 mars prochain au nom de l'information, de l'économie régionale et de la cohésion nationale, un sujet préparé par Julie Gay. Les minorités ethniques et religieuses du nord-est de la Syrie, les Kurdes en particulier, sont les cibles d'attaques du nouveau régime de Damas. Des parlementaires suisses se mobilisent pour protéger ces populations, pour faire valoir leurs droits humains, mais aussi parce que la chute de l'administration kurde de Rojava pourrait conduire à la libération des 7000 prisonniers de l'État islamique. Il pourrait ramener le terrorisme en Europe. Le Conseil fédéral est interpellé, mais que peut-il faire sinon utiliser la présidence de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le conseiller national zurichois Fabian Morina.
Le Conseil fédéral a un instrument aux mains pour faire pression pour un cessez-le-feu, pour que les droits fondamentaux, les droits humanitaires soient respectés. Il peut augmenter la pression diplomatique, mais aussi économique. Il peut demander l'intervention des différentes organisations internationales. Jusqu'à maintenant, il n'a rien utilisé et c'est en contradiction avec la charge qui a été donnée par le Parlement. Toutes les plateformes multilatérales peuvent jouer un rôle. La Suisse a dans l'OSCE, qui est quand même une organisation avec beaucoup de pays occidentaux. Et là, le Conseil fédéral, naturellement, a maintenant une responsabilité particulière.
Ma langue a fourché toutes mes excuses. C'est Fabian Molina et non Morina. C'était des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
La France sera peut-être la pionnière en Europe.
Les députés ont adopté dans la nuit de lundi à aujourd'hui une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Cette mesure soutenue par le gouvernement et Emmanuel Macron vise à protéger la santé des adolescents. La proposition de loi Renaissance devra maintenant être examinée au Sénat et ce, dans les semaines à venir, a promis la ministre du Numérique, Anne Le Hénanf. Des millions d'Américains ont affronté hier une vague de froid polaire qui aggrave les conséquences d'une tempête ayant causé la mort d'au moins 23 personnes et laissé près de 600 600 000 foyers sans électricité dans la soirée. Les températures doivent encore chuter dans les prochains jours sous l'action d'une masse d'air arctique, notamment dans les régions du nord du pays, où le ressenti pourrait atteindre les moins 45 degrés Celsius.
En sport, en basketball, un Chablaisien aura l'honneur de prendre part au All-Star Weekend en NBA.
Du 13 au 15 février à Los Angeles, Keyshawn George participera au tournoi des Rising Stars qui réunit les meilleurs espoirs de la Ligue. Un deuxième Suisse l'accompagnera puisque Yannick Conan-Niederhauser a également été retenu.
En ski alpin, derrière les têtes d'affiche suisses, certains skieurs ont dû patienter avant d'officialiser leur ticket olympique.
Daniel Yul est l'un d'eux. L'athlète de la Foulie a signé son deuxième top 15 de l'hiver dimanche, seulement sur le slalom de Kitzbühel, sur la dernière épreuve qualificative pour les Jeux. S'il se réjouit de se rendre en Italie, Daniel Yul est surtout heureux de voir sa forme revenir.
Je pense quand même qu'il faut aussi dire que si dans les 8 slaloms qui comptent dans la période de sélection, on n'arrive pas à skier deux fois dans les 15, on a d'autres soucis qu'une participation olympique, si je peux dire ça comme ça. Et surtout, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est d'avoir fait un pas dans la bonne direction, d'avoir su montrer une réaction. Et voilà, j'espère pouvoir continuer un petit peu dans cette direction-là.
Le 14e hiver de Coupe du Monde de Daniel Yul ne se passe cependant pas pour le mieux. Le skieur de 32 ans met notamment du temps à apprivoiser son nouveau matériel et ne veut surtout pas que sa 12e place de Kitzbühel ne soit qu'un trompe-l'œil. Daniel Yul.
Ça reste une 12e place en Coupe du Monde. Je vais pas encore sortir le champagne pour ça. J'ai des attentes qui sont un petit peu plus élevées que ça. Mais je dirais que c'est sûr, pendant l'été ou même la saison dernière, j'espérais plus vite trouver mes marques avec le nouveau matériel, plus vite regagner de la confiance, mais ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Et maintenant, j'ai quand même l'impression que les dernières semaines à ce niveau-là, on monte en puissance, on va dans la bonne direction et il va vraiment falloir que je continue sur ce chemin-là.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Schladming, Thierry Nicolet. Avant de voir Daniel Yul à l'œuvre lors du slalom de demain, un géant est au programme ce soir dès 17h45 en Autriche. La course verra le grand retour du grison Gino Caviezel, plus d'une année après sa blessure subie à Bormio. En tennis, Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale, s'est qualifiée sans trop de difficultés pour les demi-finales de l'Open d'Australie aujourd'hui. La Belarus a disposé de la jeune et prometteuse Djokovic, 27e joueuse mondiale, 6-3-6-0. Chez les hommes, Alexander Zverev disputera sa 10e demi-finale de Grand Chelem vendredi à Melbourne. Le numéro 3 mondial, finaliste malheureux du dernier Open d'Australie, a écarté Lirner Tien, 29e joueur à l'ATP aujourd'hui.